Au départ, c'était une proposition conjointe, mais pour gagner du temps, on va l'alléger. Et je vais laisser Michel intervenir principalement autour de l'article qu'on a évoqué hier. Juste, je voudrais faire deux remarques préliminaires et je laisse parler Michel. Moi, je voulais vous montrer juste un document que j'utilise assez souvent dans les formations. Simplement pour réfléchir un tout petit peu sur les situations d'écriture, je pars d'un manuel que je trouve plutôt bien, qui est celui de René Léon, qui est quand même quelqu'un qui a fait des choses vraiment intéressantes. En fait, dans ce manuel qui s'appelle des outils pour dire, lire, écrire, il y a une première partie qui s'appelle projet d'écriture et qui est structurée de la façon suivante. Il y a 15 chapitres, vous voyez, présentation d'un objet, guide de ma commune, fiche descriptive, préparation d'un exposé, légende d'un document, texte explicatif, etc., etc. Et puis il y a une deuxième, troisième partie, peut-être même quatre, je ne me rappelle plus, autour de questions de grammaire. Or, il se trouve que dans les questions de grammaire, il y a une foultitude de situations d'écriture proposées. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Bien entendu, les propositions qui sont faites dans le cadre de la partie projet d'écriture sont des propositions intelligentes, séduisantes, qui ont du sens. Simplement, la manuelisation, entre guillemets, de ces propositions est d'une certaine manière... Moi, j'aime beaucoup ce que fait René Léon, j'aime beaucoup le livre de René Léon, mais je trouve que là, on arrive à des choses assez caricaturales. Par exemple, pourquoi, vous voyez, chapitre 10, poème. À un moment dans l'année, on va avoir un projet poème. À un autre moment, on a un projet résumé d'une histoire. À un moment, un projet nouvelle. Et à chaque fois, on est avec du matériel qui est formaté et on est devant quelque chose qui devient assez caricatural. Alors, là encore, je ne veux pas être sévère, je pense que c'est simplement le fait de mettre... des situations de projet que Claudine a évoquées hier comme étant un acquis fort des années 80 en didactique du français, ces situations de projet, à partir du moment où elles sont intégrées dans des dispositifs de manuel, elles deviennent très très caricaturales parce qu'elles s'appuient sur des corpus qui sont préformatés, et du coup ça ressemble plus tout à fait à ce qu'on attend quand on parle de projet. Par contre, dans la partie... Je vous donne conjugaison, mais grammaire, c'est pareil. Dans la partie conjugaison, on trouve une foule de propositions. Et là, on retrouve les textes courts dont a parlé Claudine, dont a parlé Claire-Marie tout à l'heure. On trouve des propositions que je trouve extrêmement fructueuses à faire proliférer dans toutes les directions. Alors voilà, je donne une énumération. Raconter une journée à la manière de Pérec, faire des phrases à partir d'une fiche descriptive sur un animal, légender une suite d'actions sur une petite BD, raconter un souvenir, écrire la bio d'un personnage, enfin la biographie, c'est moi qui simplifie, d'un personnage historique à partir de notes écrites au présent, décrire une carte postale à l'imparfait, écrire une publicité au futur, que ferais-tu si tu étais adulte, écrire des titres de journaux en conjuguant les verbes. Et là, tout d'un coup, je trouve qu'on a une richesse de situations qui sont à la fois des situations pertinentes. On le voit bien, on devine tout à fait à quel chapitre elles peuvent renvoyer. Écrire une publicité au futur, etc. On voit bien de quoi il s'agit. Qui sont des situations pertinentes sur le plan de la manipulation de la langue, qui sont très très loin des exercices structuraux dont on parlait hier, parce que justement on n'est pas dans quelque chose d'itératif, de mécanique, de conditionnement, on est dans la construction des outils. Il me semble que c'est assez intéressant, et parallèlement à ça, on a des situations qui peuvent être aussi des situations d'écriture, qui sont tout à fait authentiques, et tout à fait impliquantes, et tout à fait intéressantes. Raconter un souvenir, écrire la bio d'un personnage, etc., je pense que ça peut être des situations tout à fait, qui font tout à fait sens pour les élèves. Et donc là, le risque serait, effectivement, qu'elles soient stérilisées par une dimension strictement grammaticale, ça, c'est un réel risque, mais l'avantage, c'est on peut l'inscrire dans cette espèce de dualité entre... un projet d'écriture qui peut avoir un projet d'écriture, une activité d'écriture authentique et une activité d'écriture dirigée vers la maîtrise de la langue. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, deuxième chose qui aurait été sur quoi on aurait pu passer un petit peu plus de temps, mais je vais le zapper pour laisser tout le temps nécessaire à Michel. Il y a quelques années, avec Dominique Dourojani, nous avions à Valence une équipe qui est devenue par la suite l'équipe écriture qui est intervenue à plusieurs reprises depuis le début de cette formation. Et simplement, la question qu'on se posait, c'est tout à fait ce qu'a évoqué Claudine hier. On s'est dit à un moment, nous, en tant que formateur, on a déserté complètement le terrain de l'enseignement de la grammaire de phrase. On a mis l'accent sur des thématiques qui étaient nouvelles pour les enseignants. On a mis l'accent là-dessus. On l'a fait parce qu'il fallait le faire, parce que sinon personne ne le faisait, et que c'était une commande institutionnelle de parler de grammaire de texte, de type de texte, etc. Mais on a complètement déserté le domaine de la grammaire de phrase en disant aux gens, vous savez, il y a ce qu'il faut. Et on se rendait compte que ce qui se passait n'était pas très satisfaisant. Donc on avait constitué une équipe avec des gens qui revendiquaient, ce qui était aussi notre cas, leur ignorance en matière de grammaire et d'enseignement de la grammaire, et qui avaient envie d'apprendre des choses. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a, pendant plusieurs années, à une époque, on a commencé en 2000, à une époque où l'observation réfléchie de la langue n'était pas étiquetée comme telle, et quand les programmes de 2002 sont sortis, on était absolument ravis, parce qu'on s'est dit, mais bon sang, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans dans nos petits bricolages. Voilà. Je vais vous distribuer 2 de ces bricolages. Je pensais vous les faire. On ne va pas les faire. Vous, de toute façon, vous verrez tout de suite de quoi il s'agit et ce que ça peut donner dans les classes. On ne va pas les faire, mais ça vous donnera une idée. Donc, pendant quelques années, on a essayé de faire réfléchir les élèves et les enseignants sur que pouvait être une approche réfléchie de la langue. Et puis, le terme est arrivé. Et puis, le terme est mort aussi. Et voilà. Mais il n'empêche que les outils sont toujours là et qu'on peut continuer. Il n'est toujours pas interdit de réfléchir sur la langue. Donc, je vous distribue ma petite fiche, ou plutôt je la distribue après l'intervention de Michel, sinon ça va perturber. Voilà.
Prends. Donc, petite intervention autour du verbe. Je me pose en position de la deuxième fusée, c'est-à-dire formation des enseignants et non pas formation des élèves. Et ma question, c'est comment transformer des jeunes PE2, c'est-à-dire étudiants venant de toutes les disciplines, en enseignants de français, qui ont enseigné un énorme problème, enfin une énorme question, qui est celle du verbe. Alors, dans un premier temps, l'ampleur de la question, hein, mise au point sur les savoirs à enseigner, et puis une deuxième partie, sur l'observation d'une séquence qui prend 15 séances, ça étonne les PE2, hein, le verbe, ça se mouline pas en une séance, 15 séances donc proposées par une maîtresse expérimentée qui est ici, Laurence Roche-Thévenet, et sur laquelle il s'agit de voir tous les gestes didactiques et toute la professionnalité qui est à l'œuvre dans cette séquence, avec toutes ces variables didactiques. Donc merci à elle pour le corpus et toutes les productions d'élèves qui, pour moi, contiennent en germe tous les problèmes sur le verbe de la maternelle à l'université. Donc, la question du verbe, un immense problème, avec alors 4 points, un retour sur l'histoire et l'histoire de la grammaire scolaire, le verbe comme lieu de l'insécurité et de la stigmatisation sociale, le verbe comme la zone du plus grand risque orthographique, et le verbe comme le lieu d'apprentissage complexe et multiple et hétérogène. Donc, je me sers des travaux d'André Chervel, que je vous conseille, pour jeter un regard sur l'histoire de notre discipline et qui montre que le verbe n'est pas nouveau, qu'il est le fruit d'un enseignement séculaire et trop souvent sédimenté. Je vous cite, je reprends les indications de Chervel, 2006, l'enseignement, histoire de l'enseignement du français, du 18e au 20e siècle. Alors, il observe que les langues provinciales, les patois, les usages linguistiques sont des poches de résistance très importantes concernant le verbe et la pénétration de la langue nationale. Les maîtres du 18e et du 19e ont constamment à, je cite, « purifier le français de leurs élèves et de les débarrasser de tous les régionalismes et de toutes les erreurs, notamment concernant les auxiliaires. Le problème est dans les écoles normales. Un inspecteur général de passage à Rennes en 1840 se plaint et constate que les élèves de deuxième année ne se sont pas encore corrigés des locutions vicieuses telles que vous avez arrivé. Rappelons encore avec André Chervel que tout au cours du 17e, les variantes morphologiques sont constantes dans l'usage « je vais et je vas »,« il cueillera, il cueillerait »,« j'envoyerai et j'enverrai »,« j'allais et j'allie ». Vaugelas, notre grand grammairien qui a fait beaucoup pour la régulation du verbe, dans sa carrière, peut hésiter entre vécu et vécu, entre les formes archaïques, ils léront au lieu de laisseront, ils prindre au lieu de ils prirent, qu'il contraindra plus tard. Ces doublets sont encore dans notre langue. Je m'assieds et je m'assois, je paie et je paye. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une petite comptine d'avant 1650 que Claire-Blanche Benveniste cite dans un article du Français aujourd'hui et qui nous montre des comptines populaires pleines des néologismes. Le petit mari, dessus la porte je le mis, la poule du curé l'avalit, je la pris et l'étranglis. L'apprentissage scolaire a beaucoup fait pour réguler le verbe et dans l'unification des formes. L'école a permis au verbe de se stabiliser depuis le XIXe siècle. Cependant, le verbe reste un grand lieu d'insécurité linguistique. Je me réfère aux travaux de Madame Pavot. La faute de conjugaison est un stéréotype des discours sur la langue. C'est un réservoir inépuisable de jeux de mots, café bouillu, café foutu, un outil efficace de discrimination culturelle, un lieu normatif qui cristallise la passion française pour la langue. Et nous avons tous notre répertoire de fautes de conjugaison, celle des enfants et celle du peuple. Je suis tais, ils sont tais, il disa, il prona, il vu, il apprendu, j'allerai. On le trouve chez les locuteurs cultivés, voire le travaux des correcteurs qui corrigent les épreuves des écrivains et qui peuvent trouver, ils s'enfuyèrent, ils dissolva, ils courut, ils mourusit, ils étranglit, ils aperceva, ils demandit, ils vivèrent. Et surtout, ne dites pas, parce que vous serez stigmatisé, il faut qu'il me croive, il faut qu'il me voie. En effet, souvent une interprétation axiologique, met ces verbes et ces formes verbales au compte d'une ignorance coupable et d'une infériorité linguistique. Tous nos écrivains, même les plus classiques, se sont bien amusés à transcrire les voix du peuple, Molière en particulier, qui faisait rire à la cour des paysans et des servantes, et qui faisait s'indigner les savants, donc auxquelles réponse de Martine dans Les femmes savantes, « Mon Dieu, je n'avais pas autant éduqué comme vous, et je parlons tout droit comme on parle chez nous. » Même chose chez tous les écrivains réalistes ou naturalistes, dont dans leur construction et stylisation littéraire de l'oral. Mot passant, on dit comme ça, « Je somme plus ami, ça me fait deuil, je vas te Havre, vé chambrelan, j'en sombré sur un bon, nous sommes en sauvés à trois. » Quelque fautif que soient ces usages, quels que soient ces fauteurs de troubles en conjugaison, ils disent beaucoup de choses sur le système verbal français nous renseignent sur le système du verbe. Ils sont preuve d'une linguistique populaire, d'une linguistique du sens commun, d'une linguistique des profanes, qui sont extrêmement intéressantes et qui, je reprends les termes de Dominique Bucheton, soyons bienveillants avec les élèves, ne soyons pas bienveillants par charité chrétienne, mais simplement parce que nous reconnaissons aux locuteurs des compétences. Et toutes ces incorrections doivent être qualifiées par les didacticiens comme des erreurs intelligentes. Alors, je prends par exemple « je suis tais », qui s'explique par l'analogie avec les verbes bases de l'imparfait, qui se termine par « tais »,« je mens », »,« je mentais », »,« je pars », »,« je partais », et donc « je suis tais ». Daniel Lehmann interprète « disa » comme un souci d'hypercorrection, où il s'agit de différencier le présent « il dit » du passé simple « il dit ». Et donc, c'est un moyen de reconnaître deux formes différentes. Et puis, c'est une compétence à l'heure, c'est-à-dire le moyen d'aligner sur les verbes du premier groupe un passé simple. Donc, je passe. Donc, erreurs intelligentes, ne pas considérer avec les déclinistes et les déclinologues que l'école ne remplit plus sa mission et que la France fout le camp. Le verbe comme zone du plus grand risque orthographique. Lieu où la langue est à son plus haut gros degré de sophistication. Donc, caractéristiques du verbe, je passe rapidement, mais elles sont fondamentales à rappeler au PE2, enfin, et à faire construire au PE2. Le verbe est le domaine par excellence de la variation. Alors, variation sur le radical et toutes ses bases, si je prends le verbe pouvoir, « pé »,« pouf »,« peuvent » et « puissent », Le Becherel offre toutes ces variations sur les bases, et donc vous n'avez pas moins de, dans un Becherel, de, vous n'avez pas moins de 88 tableaux pour montrer toutes ces variations, et les maîtrises de ces formes dépendent de leur usage. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner et de déplorer que des étudiants à bac plus 5, pour le verbe bouillir, au futur, on pourrait vous le demander, mais écrivent en trois parties, certains boueront, certains bouilleront et certains bouilliront. Même chose, ne pas s'étonner que des étudiants bac plus 5, au passé simple du verbe élire, écrivent élire ou ils élisirent, puisqu'ils approprient avec le verbe élire, alors que élure paraît bien peu congruent. Donc inutile d'avoir des discours alarmistes. Alors les variations touchent autour aussi la terminaison du verbe, et donc important, un verbe à la voix active, ne présente pas moins de 90 formes. Le verbe aimer, 72 formes différentes, dont 47 sont des formes orales. Donc là aussi, deuxième caractéristique du verbe, ne pas confondre la conjugaison à l'oral et à l'écrit. On verra dans le corpus enfant que les enfants sont compétents à l'oral, mais qu'ils ont un problème, c'est de transcription à l'écrit, notamment, donc caractéristique du verbe, c'est le problème de l'homophonie, pour M, M-E-E-S-E-N-T, gros problème pour aimer ou aimer, qui peut présenter une douzaine de formes. Je renvoie à la grammaire de Bernard Combette, Bâtir une grammaire, qui dans les années 70 montrait bien cette problématique entre l'oral et l'écrit. Malheureusement, les grammaires aujourd'hui, comme le constate Caroline Masseron, la didactique du verbe est plutôt en régression, c'est-à-dire qu'on retourne aux tableaux de conjugaison, qui sont plutôt des cimetières historiques, où les formes ne sont plus utilisées par les locuteurs. Du point de vue morphologique, montrer de grandes variations, la flexion modale et temporelle, c'est une caractéristique spéciale du verbe. La question de la personne, donc le problème de la relation du sujet et du verbe, qui est une relation syntaxique, c'est important. Attention avec les pronoms relatifs, les accords se font bien, beaucoup moins bien. Et ces informations, donc issues du latin, sont redondantes. En latin, il y avait besoin de marquer cela sur les terminaisons. En français, c'est redondant. Il marchait, il et marchait. Le T est redondant du il. La question du nombre peut être considérée comme naturelle par les locuteurs ou par les personnes scolarisées, mais pour des grammairiens qui se penchent sur la question, ça a quelque chose de totalement incongru et inattendu. Si l'on voit très bien que la notion de pluriel marche très bien sur les noms, c'est-à-dire des objets pluralisables, une tomate, deux tomates, trois tomates, il est beaucoup plus problématique de penser le pluriel du verbe regarder. Que signifie regarder au pluriel? C'est problématique. Donc ça peut expliquer un certain nombre d'erreurs d'élèves pour alignement donc sur la conjugaison latine. Donc héritage historico-culturel. Mais Jean-Pierre Jaffré montre aussi que c'est pour créer que c'est un. Ça crée le confort du lecteur, hein, qui, grâce à ses marques redondantes, peut lire plus facilement. Donc, un petit mot aussi dense que problématique, qui, dans les processus de didactisation, doit être considéré attentivement. Alors, dernier point, un lieu d'apprentissage hétérogène. Du point de vue sémantique, alors, vrai problème et débat entre grammairiens et linguistes et didacticiens, que fait-on de « le verbe, c'est l'action », hein, définition du verbe. Des gens comme Grossman disent « il faut bannir cela », Carole Tissé dit plutôt « c'est un palier cognitif indispensable », d'autres disent « c'est tellement dans la culture qu'il faut travailler avec et garder cela ». Dans les dictionnaires, vous avez cette définition, et longtemps dans le gréviste, vous avez eu cette définition. Maintenant, on ne définit pas le verbe dans le gréviste, mais on cherche le moyen de le reconnaître, et on dit « le verbe est un mot qui se conjugue ». Mais on est... Alors, une définition que reprend Marc Villemette dans sa grammaire du français critique du français, qu'il emprunte à Guillaume, « le verbe est un sémantème qui implique et explique le temps ». on verra comment avec les élèves on peut le dire, hein, un verbe c'est quand même quelque chose qui indique le temps et c'est sa spécificité. Hein, les marques de temps et de mode sont caractéristiques du verbe, il y a bien que le verbe qui indique cela. Ne pas oublier que le verbe est une unité lexicale, trop souvent oubliée, c'est-à-dire quand on regarde les leçons de vocabulaire, on a beaucoup de travail sur le nom et beaucoup moins sur le verbe, parce que le verbe a moins de saillance lexicale que le nom, du fait qu'il se conjugue, du fait qu'il a des compléments et du fait qu'il est un relateur. Donc il identifie moins au réel que le nom. Donc importance de travailler quand même le verbe du point de vue lexical et de le lier à des problèmes syntaxiques. Le verbe change de sens en changeant de construction. Jouer, jouer à, se jouer de, jouer avec. Du point de vue syntaxique, alors deux grammaires en concurrence. Soit on prend la grammaire des constituants et on dit dans la phrase il y a deux blocs syntaxiques. Il y a le groupe sujet et le groupe verbal. Ou bien on s'inspire de Ténière et de la grammaire valencielle et on dit le verbe est le pivot de la phrase et autour du verbe, il y a des places, des verbes à deux, trois places. Donc Alice sourit une place, Alice envoie une lettre à sa grand-mère, trois places. Une place pour le sujet, une place pour le COD et une place pour le complément d'objet second. Vous verrez que c'est pas innocent ce que je dis là, c'est très important pour la construction de la séquence. On a pris la position Ténière. Ne pas oublier aussi que le verbe se travaille sur le plan énonciatif, hein, c'est-à-dire que caractéristique de l'énonciation, la modalité, la temporalité. On n'utilise pas les mêmes verbes et les mêmes formes pour exprimer le doute ou la conviction, pour faire un récit de vie ou pour écrire un conte, pour écrire un article de journal ou une recette. Donc montrer toujours qu'il y a un choix au début qui est fait, c'est-à-dire avec un temps mode repère, important à faire repérer en troisième au moment des dictées, il y a toujours un temps repère. Est-ce que c'est un récit de vie au passé composé? Est-ce que c'est un conte à la parfaite passé simple? Travailler donc toujours les verbes avec les types de texte, types d'écrit, types de discours. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, donc une séquence. François va vous distribuer. Oui.
Est-ce que sur la première partie, il y a des questions? Parce que Michel est allé très très vite, je la connais, et peut-être si dans la partie historique, on avait le temps de se repérer, peut-être que dans la partie proprement linguistique, certains, avant d'aborder la séquence, certains d'entre vous ont deux, trois questions à poser.
Oui, alors j'ai de très multiples exemples. Pourquoi les enfants mettent un S au verbe « la neige tombe », ENT ou ES? Ben, madame, parce qu'il y a plein de flocons. Le chien aboie, ENT, madame, parce qu'il y a plein de jappements. Le plafond s'effrite parce qu'il y a plein de petits bouts qui tombent. La chorale chante parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, etc. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont sur des accords sémantiques et pas grammaticaux. Et sur généralisation des règles du nom sur le verbe.
En fait, moi, c'était exactement à ça que je pensais. J'étais pas sûr que sur la question, que ce que Michel avait dit sur la question du pluriel des verbes était très bien compris et très clair pour les gens qui avaient pas, enfin, qui n'ont pas nécessairement ici de formation linguistique. Et je crois que les exemples que vous venez de donner permettent de clarifier complètement ce qu'elle voulait dire tout à l'heure.
En troisième, une difficulté. Alors, c'est par exemple, chaque patte de l'animal étincelait. Une phrase de Giono en dictée de brevet des collèges. Vous avez une grande partie des élèves de troisième qui mettent chaque patte étincelait à UNT. Hein, et donc, c'est la règle de la distributivité. Chaque élève a une gomme. C'est tous les élèves ont une gomme, mais il faut les considérer un par un. Hein, et donc, les accords avec chaque, très longtemps, s'écrivent avec des marques de pluriel. Et ça, c'est un problème conceptuel.
Et de parler de la surgénéralisation du S comme marque de pluriel qu'on observe notamment chez les élèves de CP, CE1, encore CE2 parfois. C'est-à-dire là, il y a une marque de pluriel et cette marque de pluriel, c'est le S. Ensuite, va se spécifier la marque du verbe. Je crois que c'est deux choses différentes. La valeur sémantique, c'est l'histoire de « je monte l'escalier ». Là, donc, il y a... Oui, non, mais ça ne m'apparaît pas tout à fait le même problème, parce que les chats jouent avec un S, c'est parce que la marque d'accord, c'est le S. Ça reflète bien dans le verbe. Alors que le plafond, c'est frites, N-E-T, parce que les miettes, ça, c'est par le sens. Alors, il y a eu un gros débat autour de, est-ce que, sur les définitions du verbe, par exemple, à des niveaux d'apprentissage de type CE1, CE2, on garde une définition plus simple, proche de ce que pensent les élèves, c'est-à-dire avec des éléments sémantiques, ou est-ce qu'on les évite? Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on les évite. Et les psychologues, parfois, ils pensent qu'il faut les prendre en compte. Voilà.
Ce qui prouve, tout ce que tu as dit prouve que ce qui vient d'être dit prouve que lorsqu'on fait l'orthographe avec des élèves et des enfants, il faut partir de leur représentation. Et en particulier s'inspirer des travaux de Jean-Pierre Jaffré. Et je pense que ce type de travaux n'est pas suffisamment développé. Parce que tant que la représentation n'émerge pas, tant qu'elle n'est pas supprimée et remplacée par une représentation exacte, les élèves vont continuer à faire des erreurs. Donc on va entendre le discours, ils ont appris ça en primaire, ils ont appris ça au collège, qu'on ne comprend pas. Mais la représentation reste.
Oui, oui, très important. D'où l'importance, par exemple, avec les PE2, de commencer par le verbe « c'est ». Et chaque étudiant stagiaire écrit la définition du verbe, on lit toutes les réponses et on construit à partir de ça. Donc vous avez sous les yeux donc la séquence avec les 15 séances. Oui, pardon.
C'est possible de redonner la référence de la grammaire d'appui.
Il n'y a pas de grammaire d'appui, mais donc moi je vous conseille, enfin pour les, j'aime beaucoup la grammaire de Combette, bâtir une grammaire, et puis sinon la grammaire de la grammaire de critique contemporaine, c'est la grammaire de Marc Wilmet, W-I-L-M-E-T.
Il y a deux versions.
Oui.
Il y a une version savante,
une version.
Je viens distribuer le. L'exemplier, voilà, je n'en ai qu'un pour deux pour le moment. À la pause, je ferai le complément pour que tout le monde puisse l'avoir. Mais quand on a fait les photocopies, on ne savait pas très très bien combien on serait.
Donc la séquence se commence dans la deuxième partie de l'année. Il y a toujours la question, est-ce qu'on commence par le nom? Est-ce qu'on commence par le verbe? Donc il avait été choisi de commencer par le nom. Et puis dans la deuxième partie de l'année... de commencer par le, de travailler sur le verbe. Alors, pourquoi on présente cette séquence aujourd'hui? C'est parce que on fait le pari que écrire d'abord et l'on fait écrire les élèves, c'est-à-dire qu'on donne, on dit aux élèves, on met au tableau, trouve, prend et vient, et on leur demande avec ces trois mots d'écrire des textes. Donc on est bien chez Ténière, c'est-à-dire on prend le pivot de la phrase et on demande aux enfants de mettre autour ce qui va. Vous verrez d'autres méthodes, c'est souvent des méthodes, on observe un texte, on regarde les verbes, ou bien on met une phrase sans le verbe. Ici on fait le choix, on donne le pivot, les enfants sont les premiers grammairiens de leur langue, c'est-à-dire, vous allez voir, c'est-à-dire aucun enfant n'échoue, quoi. C'est-à-dire tous les enfants font un texte et tous utilisent un verbe. Alors, je présente les parties prises didactiques. Deuxième partie prise didactique, c'est-à-dire des tâches à erreur. On écrit au tableau des phrases sans verbe et on demande aux enfants ce qu'ils en pensent. Alors, c'est par exemple galater le trampoline. Et la maîtresse demande qu'est-ce que c'est que cela? Et donc, je vous lis un dialogue d'enfant. Que pensez-vous de ces écrits au tableau? Tu as écrit des phrases. Pourquoi ce sont des phrases? Parce qu'il y a une majuscule et un point. Parce qu'il y a une suite de mots qui veut dire quelque chose. Oui, mais on ne comprend pas bien. On dirait qu'il manque des mots. C'est des mots mélangés. C'est des phrases. Tu as oublié un mot. Tu as oublié un mot. Effectivement, ce sont des mots dont j'ai enlevé un mot. Et donc, les enfants sont invités à écrire ce mot. Tous les enfants écrivent un verbe. Sauf un qui est pas d'origine française, enfin qui arrive en France depuis 2 ans et qui met la préposition avec, mais qui pourrait très bien être une légende sous une image, Galatée avec son trampoline. Donc les enfants savent très bien utiliser les verbes. D'autres choix didactiques, c'est-à-dire de toujours mêler lecture, écriture, travail sur la langue et travail sur la littérature. C'est-à-dire, alors je ne sais pas Claudine ce que tu en penses, mais si tu as souvent des reproches, la question de l'instrumentalisation de la littérature. Il a été fait le choix d'utiliser un album de jeunesse que je vous présente et dont je vous ai mis le texte. Alice sourit, un récit à chute, Alice danse, Alice se promène, Alice nage, Alice se cache, Alice fait des tours, splatch, Alice fait des grimaces, Alice rame, Alice trotte, c'est-à-dire un enfant dit, ben dis donc, elle en fait beaucoup de choses cette petite, hein. C'est-à-dire, et si l'auteur a choisi de mettre des verbes, c'est pour montrer une enfant très vivante. Sauf que la chute, c'est Alice allait comme toi, et Alice est une petite fille handicapée. Donc ici, il me semble que pour comprendre ce récit, on n'instrumentalise pas la littérature, c'est-à-dire qu'on montre le choix de l'écrivain qui choisit de mettre des verbes pour produire certains effets, et qui, avec la chute, va obliger à une lecture rétrospective de l'ensemble du texte, et qui montre que si Alice saute, se promène, c'est souvent sous les épaules de son papa. C'est-à-dire qui oblige à une lecture rétrospective de la nouvelle. Parti pris de toujours faire écrire les élèves. Donc, ils écrivent un autre Alice sourit. Ils font un imagier des verbes. Alors voilà, donc c'est ça par exemple, qui s'inspire du travail d'Agnès Rosinsty, le Larousse des tout-petits, les verbes, les noms, les adjectifs. Il faut aller à l'ABCD, chaque enfant choisit un verbe ou choisit une phrase, et il doit illustrer le verbe. Alors, et on fait un abécédaire, avec de A jusqu'à Z, et par exemple à P, eh bien on va prendre le verbe promener, et on citera la phrase « promenons-nous dans les bois ». C'est-à-dire, le verbe roule, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est-à-dire que chaque enfant recopie un verbe avec l'infinitif et cite une phrase tirée d'une lecture faite. Donc ici, l'écriture sert à fabriquer une banque à outils, c'est-à-dire les élèves s'outillent eux-mêmes. Et donc l'imagier des verbes sert ensuite de document. Donc je vais peut-être vous demander de regarder le corpus. Donc les premières productions des élèves. Donc question au PE2, mais question que... Alors, parcourez-le rapidement. Quelles sont d'après vous les compétences à l'œuvre chez ces 24 élèves de CE1 et quels sont les problèmes que vous repérez? Compétences construites et deuxièmement, compétences à construire. Je vous demande, on est obligé d'aller vite, que faites-vous de la phrase de Ramzy, l'élève 19? Lisez aussi Axel, le 13. Si c'est l'annexe 1, ça s'appelle les productions individuelles. Donc, travail avec les PE2, compétences à l'œuvre. Et puis, comment vous allez vous servir de cette première production pour faire avancer la séquence? C'est-à-dire, que faites-vous de ces textes? Choisissez-en peut-être quelques-uns qui serviront de support pour continuer le travail. Donc, je regrette qu'on n'ait pas plus de temps pour que vous puissiez l'étudier précisément. Donc, tous les élèves ont produit quelque chose. Vous voyez que les écrits sont très diversifiés, très variés, et que ces enfants sont des enfants compétents pour parler leur langue. Cependant, un certain nombre de problèmes se posent. En CE1, on écoute ce que dit la maîtresse. Et donc, si la maîtresse a écrit « trouver, venir et prendre », on écrit « venir, trouver et prendre ». Et à l'école, on peut faire n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi, qu'on ne dirait pas à l'oral. C'est par exemple le cas d'Axel. Il était une fois un garçon qui avait trouvé, il avait prendre une libellule, il a vu une chauve-souris qui venir que la nuit, c'est-à-dire il respecte strictement ce que dit la maîtresse. Et donc il met le verbe à l'infinitif sans le modifier. Ce qui sera intéressant, c'est que le relevé de l'ensemble des productions va justement montrer que à partir de trouver, venir et prendre, les enfants ont choisi de nombreuses possibilités. Hein, ils ont fait varier le verbe en personne, en temps et en mode. Donc ça permet de construire, le verbe c'est de la variation, et c'est de la variation en temps, hein, et en personne. Alors le cas de Ramzi nous a posé problème un certain temps. Les PE2 disent, bon, cet élève n'a pas compris la consigne, il n'est même pas capable de comprendre qu'il faut mettre les trois verbes. Et puis, donc, on l'écarte. Alors, moi, je vois du ténière là-dedans, et je crois que je ne suis pas dans la surinterprétation. Cet enfant est un enfant qui est en France depuis peu de temps et qui parle le persan chez lui. Et donc, ce petit enfant fait de la grammaire quand on est en grammaire. Et donc, trouver et prendre, ils sont de la même famille et avec coquillage. Je traduis. Trouver et prendre sont deux verbes transitifs qui se conjugue avec un COD, coquillage. Je trouve des coquillages, je prends des coquillages, et donc je ne marque pas venir, qui est un verbe intransitif. Et qui fait une phrase de grammaire, puisqu'on est en cours de grammaire. Autre chose importante, alors, pour analyser ce tableau, j'ai fait un tableau à l'annexe 3, donc ce sont les tableaux ici, et la démonstration est flagrante. C'est-à-dire, j'ai relevé tous les verbes en trois colonnes. Donc, troisième colonne, à droite, tous les verbes qui étaient corrects, donc correspondant à la norme. Deuxième colonne, les verbes qui seraient corrects si on les entendait à l'oral. Et première colonne, les verbes qui montrent des problèmes graphophonologiques, c'est-à-dire où le mot n'est pas respecté. Donc, première chose, ces enfants sont alphabétisés, c'est-à-dire ils sont tous capables de traduire, de transcrire de l'oral. Seulement, ils sont en CE1, ils sortent juste de l'apprentissage graphophonologique et ils prennent les lettres qui viennent. Par exemple, pour le son « est », eh ben, le verbe « être » va beaucoup venir. « Je vais à l'école », eh ben, « je vais », V-E-S-T. « Je l'ai jamais vu », eh bien « jamais », E-S-T. C'est-à-dire ils utilisent leurs ressources les plus courantes. Et donc, alors, vous voyez apparaître tous les problèmes de segmentation, le problème des pronoms, le problème des pronoms posés, je les ai prises, le problème de la négation collée au verbe. Donc, vous avez tous les problèmes de segmentation, tous les problèmes des lettres finales qui montrent le passage du savoir alphabétique au savoir grammatical, c'est-à-dire passer du stade alphabétique au stade orthographique. Les stades de Ferrero. Donc vous voyez que ces enfants parlent le français. Le gros problème de l'apprentissage, c'est comment, au lieu de mettre au petit bonheur la chance les « et » ou les « a », je vais choisir en fonction des variations de temps, de mode et de personnes et de nombres. Donc je vous renvoie à Bernard Combette, son manuel de 6e montre très bien ça, et il me semble que c'est un premier apprentissage, c'est-à-dire à l'oral, voilà ce qu'on entend, et à l'écrit ça pose de graves problèmes. En même temps, certains enfants sont déjà dans la phase d'accord grammatical puisqu'ils sont capables d'écrire des verbes correctement. Des questions sur ce... Oui.
Juste, vous avez dit Bernard Combette, de 6e, vous avez une
référence... Bâtir une grammaire de la phrase au texte chez Delagrave. Et la première leçon de 6e montre justement le problème du passage de l'oral à l'écrit, les formes en « i », etc. Et puis le problème de la segmentation. Hein, les éléments soudés au verbe, les pronoms clitiques antéposés, la négation, le pronom, il y a des vrais problèmes. Les caractéristiques de la séquence, donc vous voyez mélanger la lecture et l'écriture, travailler sur des corpus produits par les élèves, c'est-à-dire ils travaillent sur leur propre production, articuler lecture-écriture, travailler avec des outils littéraires qui permettent de différencier des textes littéraires d'autres textes. Je passe à l'évaluation. Et qui montre que le problème du verbe est un problème redoutable qui ne s'arrêtera pas à la fin du CE1. Donc, je vous ai mis à la première page, analyser les difficultés des élèves. Ne pas croire que parce qu'on a fait la leçon et on a fait le problème, que ça va être acquis pour tous les élèves. Donc, les évaluations sont extrêmement positives. 22 élèves sur 24 savent reconnaître le verbe. Et ils ont des procédures, ma foi, tout à fait pertinentes. Je lis tous les mots et je vois que court peut se transformer. La leçon, c'était le verbe se transforme dans le temps. Et on n'avait pas pris le verbe est une action. Ils ont tous des procédures. Le problème, c'est comme le montrent Jean-Pierre Jaffré et d'autres, c'est-à-dire que les procédures, quand elles sont très faciles à utiliser sur une phrase, hein, je lis tous les mots, quand on est dans un texte, les enfants ne vont pas utiliser la procédure à chaque verbe. Vous voyez les verbes qui font les quand les textes font 10 ou 15 lignes, ils vont l'utiliser sur le premier verbe, mais après c'est oublié, c'est beaucoup trop coûteux cognitivement. La question de reconnaître un verbe. Souligne un verbe, comment expliquez-vous que des enfants, après ces 15 séances, puissent écrire « Alice est contente » et souligne « contente »,« Alice fait du cheval » et il souligne « cheval »,« Alice fait des bêtises » et il souligne « bêtises », « Alice va dormir »,« Alice a peur ».« Alice est dans son bain », comment se fait-il qu'il souligne la préposition ?« Alice est cachée derrière les pierres », pourquoi il souligne « derrière »,« Vous sortez vite »,« Julie met son manteau ». Donc je reprends ce que je disais, c'est-à-dire que le verbe a peu de saillance sémantique, et très souvent le sens se reporte par exemple sur l'adverbe. Vous sortez vite, toute l'idée de sortir est dans vite, et donc les enfants vont souligner vite. Ils vont aussi, donc il y a toute la question des verbes, ce qu'on appelle les verbes support, faire un voyage pour voyager, verser des pleurs pour pleurer, c'est-à-dire la charge sémantique est sur le nom et non pas sur le verbe. Et donc les enfants vont souligner le complément. Alors l'enfant qui écrit, il prépare leur déguisement, il dit j'ai souligné déguisement parce que je déguise, tu déguises, il déguise, ou bien costume. Donc quand il y a homophonie aussi entre le verbe et le nom, c'est un problème. On l'a fait aussi sur souligner le verbe lorsque l'enfant produit sa propre phrase. Donc par exemple danse, la danse c'est bon pour les filles. Il souligne danse parce que je danse, tu danses, et je suis un supporter de l'OL. Il va souligner supporter qui vient du verbe supporter. Hein, mais voilà. C'est-à-dire que donc ne soyons pas surpris, c'est des enfants soulignent encore autre chose que le verbe, et ça va durer tout le cycle 3 et jusqu'à la 6e. Un chiffre que je vous rappelle, des élèves qui rentrent en 6e, un tiers des élèves de 6e. Ne savent pas ont du mal à faire la différence entre verbe, nom et adjectif. Donc l'apprentissage continue au-delà de l'école primaire. Caractéristiques de la séquence, comment nomme-t-on le métalangage, c'est-à-dire à partir de quand on va employer le mot verbe. Alors vous voyez, si vous lisez la séquence, que ça n'arrive à la 5e séance, c'est-à-dire lorsqu'on a bien manipulé, relevé et fait des tableaux avec des verbes. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire le moment où les enfants ont donné la notion de verbe. Ça renvoie à Chagrin d'école de Penac et qui renvoie de nombreuses scènes familiales. « Comment peut-on appeler ces mots ?» demande la maîtresse. « Quel titre peut-on donner à cette affiche ?» Alors, vous savez, c'est les questions devinettes. Hein. Alors, il y a un gamin qui commence à répondre, les déterminants. Non, non, les déterminants, ça commande les mots. On met le lalé. Donc, c'est des outils, des mots-outils, les petits mots. Ah, c'est des verbes. Donc, une gamine qui répond, c'est des verbes. Parce que j'entends mon frère, quand il fait ses leçons, il dit, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez. Scène familiale française. Mon frère, il fait pareil. C'est quoi des verbes? Eh ben, c'est des verbes, parce que tu peux dire « je, tu, nous, devant, je mange, tu manges, nous mangeons ». Donc, l'école française continue à faire de la conjugaison, les scènes familiales, et donc, grâce à d'autres maîtres, cette maîtresse fait produire le mot « verbe » par les élèves de la classe, hein, qui ont des habitudes familiales et qui voient leurs frères et sœurs réciter la conjugaison. Voilà, je m'arrête. Pourquoi ?
Encore plein de problèmes.
Oui, mais le temps passe.
Moi, par exemple, quand j'ai un énorme problème quand j'entends Michel dire « les élèves s'outillent », j'ai un problème de segmentation. Je ne sais pas comment on écrit « s'outillent ».
Pour la question de la littérature, hein, moi, il me semble que aussi on dit « ne touchons pas la littérature, admirons ». et moi, il me semble que c'est important de regarder les choix que font les écrivains. J'aime beaucoup citer deux albums, Moon de Rascal, c'est-à-dire quand Moon naquit, la guerre ne se tue pas. Tut et ut, le verbe se taire. Est-ce que la guerre se... Qu'est-ce que ça veut dire que la guerre se tait? C'est un vrai problème. Et moi, je pense que montrer la littérature, c'est bien montrer l'écart de l'écrivain par rapport à la norme. Même chose sur Petit Gris de Elsbieta. Première phrase, la famille de Petit Gris attrapa la misère. Donc, on attrape la grippe ou la rougeole, mais attraper la misère, et donc montrer que l'écrivain a fait un choix. Ça, moi, il me semble que donc il n'y a pas de divorce entre littérature et travail sur la langue. Il n'y a pas de divorce entre lecture et écriture. Et travail sur la langue.
C'est une remarque très courte. Vous avez dit un tiers des élèves de 6e ont du mal à faire la différence entre verbe nom et adjectif, ce dont je suis convaincue par l'expérience, tout simplement. Mais et c'est pas à charge de mes collègues, mais 95% des professeurs de français et de collège sont persuadés que c'est 100% acquis par 100% des élèves.
Et que c'est aussi le problème du primaire, mais j'aime bien citer Michel Fayol qui dit « N'oubliez pas que les enfants à l'entrée en sixième sont à 50% de leur potentiel orthographique et que la maturité syntaxique, ça arrive entre la seconde et la première, notamment pour les formes en E. Il y a un saut qualitatif dans les copies entre seconde et première pour comprendre la différence et la pénétrer profondément entre E et ER, il faut bien être en première. » Donc ça rassure beaucoup de parents. Votre gamin est en sixième, il n'est qu'à 50% de son potentiel. Hein, et il a encore tout le collège et tout le lycée pour apprendre l'orthographe et la grammaire. Hein, et ne pas considérer que le verbe, c'est le problème du CE1, c'est le problème jusque... Alors, les PE2 ont aussi des problèmes sur le verbe, c'est-à-dire... Les PCL aussi. Les PCL, leur problème, c'est qu'ils ont parfois les savoirs savants, c'est pas sûr, parce qu'ils ont fait plus de littérature que de grammaire. Et surtout, ils n'arrivent pas à dénaturaliser... ce qu'ils savent par cœur. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à imaginer un élève en train d'apprendre. Hein, et de se mettre à la portée des enfants, que c'est un enfant de sixième quand il parle du verbe.
Donc, il faut attendre que ça mûrisse. Surtout, ne rien faire. Je voulais juste apporter de l'eau à ton moulin. Effectivement, ils conjuguent n'importe quoi. On relève les verbes gentil, costaud. Pourquoi gentil et costaud, c'est un verbe. Je suis gentil, tu es gentil, etc. Il est costaud, nous sommes costauds, etc. Donc c'est... Oui, oui, ils savent pas... Enfin, il me semble que par rapport à ce que disait Claudine sur les critères, je crois quand même qu'on peut garder... Enfin, tenir compte de leurs critères, croiser les critères, accumuler les critères et essayer de les tricoter.
Mais Claudine, est-ce que le verbe est une action? C'est le fruit du discours scolaire ou est-ce que c'est des gens ou est-ce que ça peut être un discours enfantin hors du système scolaire? Moi, je pense que c'est le fruit de l'école. Enfin.
Il faudrait remonter à Port-Royal et voir ce qui se passe. Mais là simplement sur les critères, moi, il y a des collègues, c'est une notion sur laquelle on fait pas mal de travail aussi dans le cadre de modules. Et c'est intéressant aussi de mettre en attente des critères et puis de les mettre à l'épreuve et puis de voir que ça marche pas toujours et que donc c'est pas un bon critère pour repérer. C'est un travail qui se fait dans la durée. Par rapport à ta conclusion, moi, je voulais rappeler qu'au début des années 80, il y a un livre qui s'appelait... alors, l'auteur, c'est Alex Clérino, et le livre, il s'appelait « Faire écrire les élèves », quelque chose comme ça. Et à la fin du livre, il y avait 5 pages où il disait « Il faut gagner du temps pour l'écriture ». Pour gagner du temps pour l'écriture, il faut gagner du temps sur la conjugaison. Et il montrait... que justement faire un classement sur quelle est la lettre finale muette en troisième personne du singulier, c'était un vrai problème d'écriture qu'on avait et que c'était peut-être pas la peine de réciter tous les paradigmes de conjugaison, mais il y avait une autre entrée. Et alors, dans les ressources, puisque tu as cité quelques éléments bibliographiques, moi je voulais citer la très jolie séance ou séquence de Daniel Cougis dans le livre « L'orthographe » enseigner l'orthographe, qui est un CE1 aussi, je crois, où les élèves se demandent est-ce qu'on peut écrire ENTS. Et donc, là, il y a toute une recherche qui permettra de voir quand on a ENT en finale, parfois on entend en, parfois on n'entend pas en, et de construire cette différence entre finale verbale. Bon, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé en formation aussi. Et bon, aussi, signaler le chapitre de Catherine Brissot dans l'orthographe au collège sur les finales verbales à nez. Alors, bon, Catherine Brissot, elle a fait sa thèse là-dessus. Mais je trouve que le livre, l'orthographe au collège aussi, y compris son chapitre sur le verbe et les finales verbales, est un outil précieux, qu'on soit à l'école primaire ou au collège. Ah oui, et dernier point, je voulais souligner que dans le travail du lexique, ce que tu as dit aussi sur les constructions, il y a tout un courant qui s'appelle le lexique grammaire, qui est justement à l'articulation du lexique et de la grammaire, puisque les verbes ne valent que par leur construction. Et l'autre jour, c'était une PLC2 qui avait fait noter, alors il y avait l'emporte sur, hein, donc elle faisait noter un certain nombre d'éléments lexicaux et elle a noté emporte. Et donc je lui ai dit, il me semble que là il fallait plutôt noter l'emporte sur, parce que effectivement emporte et l'emporte sur, ça n'a pas du tout le même sens.
Le document qui n'a jamais été publié au RL, qui circule sur Internet, enfin, je ne sais pas s'il y a encore, avait un beau chapitre là-dessus, c'est-à-dire avec le verbe jouer. Et à l'époque, il y avait eu un très beau concours professeur des écoles autour de la phrase « Le renard chasse la nuit ». Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc, est-ce que c'est un COD ou est-ce que c'est un complément circonstanciel de temps ?
Je disais, je m'interroge à entendre tout ce débat, parce que sur comment les collègues du primaire notamment peuvent se situer quand on voit les exigences des dernières instructions officielles, hein, je suis désolé de revenir à ça, et puis qui se traduisent dans les évaluations CM2 qui se passent en plus en janvier, qui se traduisent par des exercices, enfin une grande difficulté, et qui mettent pas mal d'élèves en situation d'échec d'ailleurs, hein, et la traduction des collègues, c'est vraiment, il faut que j'y arrive, quoi. Il faut que j'arrive à ça, parce que c'est ce qui est demandé à la fin de l'année. Donc, en tant que conseiller pédagogique, moi, je suis très en porte-à-faux par rapport à ça, parce que il n'y a pas de relais de cette parole-là au niveau officiel. On est vraiment dans les instructions, c'est ça. Il faut arriver à ça.
Alors moi je pense que les instructions, hein, sur le verbe c'est considérable, hein, c'est-à-dire il y a des programmes très précis avec les temps et les verbes qu'il faut étudier à chaque niveau. En même temps, moi je trouve que c'est un objet de stage et de formation fondamentale, puisque on a toute liberté pédagogique, on nous dit voilà le programme et vous vous débrouillez pour faire ce que vous voulez, c'est l'abîme, hein. Mais justement moi je trouve que ça doit être un objet central de formation des maîtres. Et le premier problème, c'est les élèves doivent concevoir qu'est-ce qu'un verbe. On ne peut pas travailler la conjugaison, les temps, si les enfants ne savent pas. Et ça, c'est fondamental. Alors, les manuels de CM2 font comme si tous les enfants savaient ce qu'est un verbe. On ne revient plus sur cette question. Donc, le problème, c'est on mouline le programme ou on bâtit un socle profond, enfin solide, à partir duquel ça ira peut-être plus vite après faire le programme. Je vois la collègue de science, là, les collègues de science. Le verbe, ça se travaille dès la maternelle. Hein. J'ai vu une très belle leçon en moyenne section autour de couler, flotter, nager, hein, autour d'une bassine. Apprentissage scientifique en EPS autour de sauter, ramper. Le verbe, ça se travaille très très tôt. Hein. Là aussi, faire construire des phrases aux élèves, papa voiture. Papa a une voiture, papa m'a amené en voiture, papa viendra me chercher en voiture, on a volé la voiture de mon papa, enfin, etc. C'est-à-dire que le verbe, ça se travaille depuis la petite section.
Juste, effectivement, on a travaillé en groupe sur cette question, la reconnaissance du verbe, ça a duré très longtemps. Ça durait très longtemps jusqu'au CM2 et après 6 mois d'exercice intensif au CM2 là-dessus, ben, ils étaient encore pas complètement au clair, donc c'est vraiment très très long. Et je voulais juste dire que dans le document, en effet, qui est jamais sorti, il y avait un truc sur les constructions des verbes, et dans le bouquin qu'on a fait avec François aussi, il y a un exercice. Je le dis parce que j'étais amenée à le conseiller en fait à une PE2 qui cherchait un truc là-dessus, parce que il n'y a pas beaucoup d'éléments sur les différentes constructions des verbes.
Oui, c'est vrai que sur cette question des faisceaux de critères ou d'indices, il y avait l'article d'Angoujard que tu cites dans
le numéro 14 de Repères, ouais. La grammaire à l'école. Hein.
Et c'est vrai que nous, quand on avait fait ce travail de très longue haleine avec des collègues, dont certains sont là d'ailleurs, Béatrice pour en témoigner, on avait fonctionné par strates, les élèves proposant des indices qu'on acceptait tous. Quand les élèves nous disaient le verbe, c'est parce qu'on travaillait avec des cycles 3, donc ils avaient déjà des connaissances qui étaient en place, et quand ils disaient le verbe c'est l'action, et ils disaient, parce qu'effectivement quand on leur demandait de repérer les verbes dans un texte, moi j'ai un exemple très précis d'une séance finie dans une classe de CE2 je crois, où il y avait un tout petit texte de Gris-Paris, il était question de déménagement, et les élèves soulignaient déménagement comme verbe, ils disaient c'est une action. Donc on acceptait les critères, on les discutait, on voyait que sur déménagement ça ne fonctionnait pas, mais que quand même, puisqu'ils étaient tous d'accord pour dire que ça pouvait fonctionner, et donc ensuite on ajoutait de nouveaux critères, mais c'est vrai que c'est infini, c'est-à-dire qu'après... en fait, on a fonctionné pendant plusieurs années sur un cycle complet, cycle 3, et avec quelquefois des enseignants, alors c'était pas homogène, mais quelquefois des enseignants gardaient les élèves 2 ans ou 3 ans. Et on se rendait compte que même après 3 ans de manipulation comme ça, il y a des zones qui restent extrêmement floues et qu'on continue à dire. Par exemple, l'argument ça se conjugue, on sait bien que souris, par exemple, voilà. Et donc ça on l'a eu tout le temps. Alors, on avait l'impression que les élèves progressaient. Ce qui nous avait surtout intéressé dans le dispositif, c'était que les élèves étaient passionnés par des séances de grammaire. Et ça, c'était un truc aussi par rapport à la question de l'observation réfléchie. Les élèves et les enseignants étaient contents d'avoir des situations où on réfléchissait, où c'était compliqué, ça pouvait durer, mais ils étaient véritablement passionnés. Et ça nous paraissait, au moins en termes d'évaluation, l'aspect positif. Les progrès étaient très difficiles à mesurer, dans la mesure où, effectivement, encore en CM2, on jonglait avec ces faisceaux de critères, et il y avait tout le temps l'élève qui était capable d'utiliser le critère qui ne fonctionnait pas dans la situation où on aurait préféré qu'il reste caché. Quoi. Voilà, mais...
Le verbe est très difficile à reconnaître s'il est loin du sujet, si ce n'est pas un nom. Le verbe est très difficile si le sens est problématique. Fulminer, par exemple, ne sera pas souligné.
Alors ça, pas tout à fait d'accord.
Les pronoms relatifs éloignent aussi de... Lorsqu'il y a un temps composé, il souligne soit l'auxiliaire, soit le participe.
À un moment, on avait utilisé quand même le texte fameux de Michaud, Le Grand Combat. Vous savez, il emparouille, il endosque contre terre, etc. Et là, les élèves repéraient des verbes. Et c'est étonnant, parce que là, les indices sémantiques, ils sont absents. On avait l'impression quand même que cette activité de repérage, revenir régulièrement sur cette chose-là, construisait quelque chose qui était au-delà de la notion de verbe, qui était de l'ordre d'intuition multiple, et en particulier l'intuition syntaxique, qui se construisait avec ces manipulations. Et que c'était comme ça que ça progressait un petit peu.
Alors, il y a un critère qui n'a pas été utilisé dans la séquence, c'est celui de l'encadrement par la négation « ne pas ». Mais ça pose problème à l'infinitif et ça pose problème pour les temps composés. Mais ça peut être un critère aussi.
Oui, moi je voulais répondre aux collègues sur les programmes. Parce que le problème, enfin, me semble-t-il, c'est que bon, il y a une très longue liste de notions. Tout est mis sur le même plan, y compris dans les repères de progressivité. Et la difficulté, c'est de mettre du relief là-dedans. Bon, alors la notion noyau, hein, elle était déjà présente dans les premières évaluations en sixième. C'est pas un élément nouveau, parce que si on regardait les écarts entre les programmes des premières évaluations en sixième et ce qui était évalué en sixième, on pouvait bien repérer qu'il y avait des notions noyaux. Donc, moi, je pense que sur le verbe, par exemple, nous, en formation initiale, PE2, on fait un travail de module avec les maîtres formateurs et le verbe, donc, on va, il y aura un groupe qui va le traiter au niveau CE2, un autre au niveau CM1, un autre au niveau CM2, avec une complexification et en prenant en compte, justement, ces critères, effectivement, de, aussi d'homophonie entre des verbes et des noms dans la langue française, etc. Donc ça, moi, il me semble que, voilà, moi, je pense aussi qu'en formation continue, il faut prendre ces vrais gros problèmes, le verbe ou la fonction sujet, qui sont énormes. Mais bah, l'incidence orthographique, mais sur la construction aussi, je voulais dire aussi qu'une collègue a un rituel, un CM, qui est de donner un verbe aux élèves et de leur demander s'ils connaissent plusieurs constructions, donc de fabriquer des phrases. Alors évidemment, les élèves donnent comme constructions différentes, en fait, des constructions qui sont identiques, mais comme il y a un côté défi, on va trier ce qui sont des constructions semblable. Et effectivement, dans un certain nombre de cas, c'est vrai que jouer, les élèves le connaissent au sens de s'amuser, mais pas forcément non plus avec, là on rejoint Ténière, et pas avec un accent de type la clé, bon, etc.
J'ai oublié de signaler l'importance des rituels, hein, si vous voyez après à partir de la séquence 5, c'est-à-dire il y a énormément de rituels, on fait des rituels de calcul mental tous les matins. Et on pourrait faire un rituel verbe, c'est-à-dire la maîtresse met un verbe au tableau, tous les enfants écrivent un verbe, la maîtresse met une phrase sans verbe et on lève vite son ardoise, ça peut aller très vite, les enfants lèvent leur ardoise avec un verbe. Et ça permet de construire l'axe paradigmatique du verbe. Hein ? La phrase du jour, ça peut être intéressant à faire chaque jour aussi. Et puis, il y a toutes les activités de mime, c'est-à-dire les enfants piochent dans un sac un verbe et ils doivent le représenter pour que les autres le trouvent. Et on peut avoir aussi des scénarios à mimer qui permettent de trouver des verbes. Donc, l'importance des rituels, moi, je pense qu'on en fait en calcul mental. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas en faire en grammaire.
Je pense que le sujet est inépuisable et ce qu'il faudrait, c'est l'année prochaine, je regarde Michel, proposer une formation centrée sur la grammaire. Celle-ci était centrée sur l'écriture et on tenait à ce que l'articulation grammaire-écriture soit présente dans la semaine, mais c'est vrai qu'une formation grammaire, je suis sûr que l'INRP a un rôle à jouer là-dessus. Pas moi parce que je ne suis pas grammairien, mais on peut quand même... Enfin, je pense que ce serait vraiment quelque chose d'intéressant.